Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle émission où aujourd'hui nous avons décidé de vous parler de la vie de Charles Gave, sa vie, son œuvre, ses franchissements. Mais au-delà de ça, au travers de la vie de Charles, ça va être surtout la vie aussi de la finance et de tout ce qui a pu se dérouler comme crise et comme grande opportunité, parce qu'il y a eu des périodes de boule et des périodes de bear market dans les deux.
Absolument.
Mais avant toute chose, je voudrais remercier l'auditeur qui nous a, parce que je fais souvent des références, et Charles aussi, au Seigneur des Anneaux, et je faisais référence la semaine dernière dans un post aux Terres du Milieu. Et donc, on a reçu cette très jolie pièce du Seigneur des Anneaux, qui est une monnaie en argent, qui est dessinée, frappée en France. Et là, c'est 10 euros, une très jolie pièce d'argent. Je pense qu'il ne faut pas l'ouvrir pour conserver la valeur. Donc, regarde, je trouvais ça très sympa sur les terres du milieu.
Ah, mais c'est drôlement bien, ça, parce que moi, c'est sans doute un des livres que j'ai le plus lu et relu, le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a... c'est une espèce d'épopée, c'est absolument incroyable, et tu as des grands moments de frisson en te disant « oh là là, ce que c'est bien ». Et donc, et le film était bon aussi.
Le film était très bien, mais ils ont pris beaucoup de temps à le faire.
Ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande, dans des coins où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Là.
Non, c'était un très beau film.
Il y a Tolkien qui a fait ça. Je ne sais pas pourquoi ces grandes espèces de sagas mythiques et tout, les anglo-saxons ont une capacité à les faire. Que, ben, nous, on n'a pas tellement ça dans notre littérature.
Non, mais peut-être parce que...
Il y a eu, grosso modo, le... La guerre du feu, là, qui était de Rony,
c'est à ton époque, la guerre du feu a fait quelque chose, mais tu demandes aujourd'hui, plus personne s'en souvient.
Mais le film était mauvais, par contre.
Tu as eu des choses comme Barjavel et ainsi de suite, mais c'était des dystopies. Et on n'a pas eu...
Là, c'est une vraie histoire, c'est la vraie
mythe. Oui, mais je pense que c'est parce qu'on a peut-être moins d'universaltique. Dans nos vies.
Oui, je sais pas.
En Bretagne, mais sinon.
Tu as peut-être pas tort, cette espèce de
parce
capacité.
Que c'est très la forêt de Brocéliande quand même, comme terreau. Donc
ça,
il faut des légendes du roi Arthur.
Il y a ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand mythe qui sont nés dans notre époque? Il y a eu celui-là, et puis il y a eu la guerre des étoiles, là, qui a été aussi un truc. La première fois que j'ai vu l'introduction de la guerre des étoiles avec le vaisseau spatial qu'on voyait qui arrivait.
Je me souviens, on était allé le voir à la grande salle qui était à côté du Lido sur les Champs-Élysées, et cette immense salle comme ça, il y a le truc qui arrivait comme ça, je sais pas, on doit être en 75, 76 peut-être.
Je parle, oui.
Et
c'était beau. Donc pour ça, vous dire que les grands mythes, parce que ce que disait Tolkien, c'est que c'était un mythe christique qu'il racontait là. On retrouve des tas de choses. Donc c'était intéressant parce que ça nous transportait en dehors du monde normal.
Alors. Pour revenir sur toi, je crois que la première chose déjà que les gens oublient, c'est que tu as commencé ton activité dans une période où, en gros, on envoyait quand même 10 CV et on avait 9 réponses.
Et tout de suite.
Et tout de suite. Ce qui change un petit peu avec les temps présents.
On n'était pas très inquiets. Et puis en plus, quand moi je suis rentré dans la finance, on était une centaine, bon, je ne sais plus combien on était à Toulouse et tout, je suis le seul. Personne n'allait dans la finance à l'époque.
Voilà,
c'était considéré comme... Donc, je rentrais dans la finance à une époque où personne n'y allait.
Ils allaient où, les gens?
Alors, ils allaient chez L'Oréal, ils allaient chez Procter & Gamble pour apprendre le marketing, à vendre des trucs et tout. Et il y en avait beaucoup qui allaient dans l'administration. Et donc, si tu veux, c'était... Aller dans la finance, c'était déjà un truc... Mais moi, ce qui m'amusait dès le départ dans ce truc-là, c'est que c'était, en quelque sorte, c'est ton esprit contre celui des autres. C'était une bagarre perpétuelle. Est-ce que tu gagnais ou est-ce que tu perdais? C'était un peu comme un match de tennis, quoi. C'était ou un combat de boxe. Et, donc après 40 ans de combat de boxe, je suis un peu cabossé, mais enfin, c'est rigolo, quoi. C'est, le fait de se battre est amusant.
Et donc, tu arrives au début, et là, tu es pris à la Banque de Suez.
Banque de Suez et l'Union des Mines, qui était une banque très convenable.
Qui n'existe plus.
qui a fusionné avec la Banque de l'Indochine, et ensuite ils ont été tous les deux rachetés à la suite d'opérations immobilières malheureuses par le Crédit Agricole. Et maintenant, il y a dans le Crédit Agricole la partie financière de qualité, si j'ose dire, qui offre des bons services, et ça s'appelle Indosuez.
Alors, donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à l'époque, les banques de dépôt et les banques d'affaires étaient séparées en pratique.
Oui, en pratique, et il n'y avait pas... Et je dois dire que tout était contrôlé, tout était, si tu veux...
Il y avait les agents de change qui étaient au milieu.
Qui étaient des fonctionnaires, enfin, quasiment. Et tout est... Donc, la finance occupait une place relativement faible. Tu vois, des gens comme...
Et tout le monde se connaissait, c'était un petit village.
Tout le monde se connaissait, c'était un petit village.
Il y avait les grandes charges des agents de change où on connaissait, je sais pas si c'était les Darblés ou les...
Oui, il y avait des gens qui étaient très, très convenables qui étaient là. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans les agents de change, c'était des officiers mystériels, c'est-à-dire qu'ils étaient très sérieux. Et il y avait des opérations qui étaient peut-être un peu douteuses parfois, allez... disons les choses qu'elles sont, qui se passaient officiellement hors de la vue de l'agent de change. C'est-à-dire qu'il n'était pas au courant.
Ah oui. Alors, vous passerez cette opération entre 12h30 et 12h45.
Hors de la vue de l'agent de change, c'est-à-dire que... Parce que comme il était un officier ministériel, il ne devait rien faire d'illégal. Ça va sans dire. D'ailleurs, même s'il n'était pas... Et donc, il y avait quand même des trucs qui parfois... par exemple, il y avait quelque chose que je trouvais à mourir de rire, c'est qu'il y avait un franc français versement à Genève, qui était coté tous les jours... à midi, midi et demi, chez Galopin, pour le truc de la bourse, tu vois. Donc, il y avait des gars qui étaient là, qui allaient déjeuner, et qui te disaient, bon, un franc français rendu à Genève aujourd'hui, c'est à ce prix-là. Et donc, tu avais un cours officiel, officieux, du franc français sorti de France, des contrôles d'échange, etc., rendu à Genève, dans ton compte, tu vois, donc tu peux voir. Et donc, tu voyais les paniques dans les marchés, quand là, il y avait une panique sur la France, quand la gauche arrivait n'importe quoi. Tu avais des écarts énormes entre le franc officiel et le franc officieux, et ça permettait de... C'était un outil vachement utile, parce que ça donnait une idée de la trouille de la population. C'était un sondage d'opinion en termes réels, quoi. C'était...
Je crois qu'il est toujours là, Galopin.
Il est toujours là, Galopin, mais il n'y a plus le franc français rendu à Genève.
Ah non, non, de toute façon, la bourse, aujourd'hui, n'existe plus.
C'est devenu... Il n'y a plus de... Mais c'était... Voilà, c'était... Donc... Dans la structure financière française, il y avait une cotation officielle du franc rendu à Genève, ce qui était illégal. Mais il y avait une cotation officielle, donc il y avait un petit peu d'huile dans les rouages, quoi. C'était très bien.
Alors, tu as fait ça jusqu'en... tu étais à la Banque de Suez.
De 71 à 73.
Voilà. Et tu t'es très vite rendu compte que...
Personne n'y comprenait rien.
Alors, que personne n'y comprenait rien, mais que surtout avec ta partie tête, sans la particule, ça n'allait pas suffire et que tu allais finir directeur d'agence.
Alors, je me suis rendu compte de deux choses. Je me suis rendu compte d'abord qu'on avait vécu dans un monde où les taux de change étaient fixes, il y avait des contrôles d'échange, les choses bougeaient assez peu, donc grosso modo, il se passait rien, tu vois. Et puis de 71 à 73, tout le système financier a explosé. C'est-à-dire que le taux de change fixe a explosé, les accords de Bretton Woods, l'or est devenu, a été coté indépendamment, le dollar s'est mis à flotter. Donc d'un seul coup, quelque chose qui ne bougeait jamais, comme, je ne sais pas, les obligations américaines, hein, qui donnaient du 4,5%, puis d'un seul coup, c'est passé de 4,5% à 15%, donc tu as pris une gamelle énorme, et puis le dollar pouvait monter ou baisser, donc... Les portefeuilles qui étaient paisibles, il ne se passait rien, sont mis à s'agiter comme des fous sans que personne n'y comprenne rien. Et personne, surtout, ce qui m'a beaucoup surpris à l'époque, c'est que personne n'a cherché à comprendre.
N'essayait de comprendre.
N'essayait de comprendre.
Ou ne commençait des analyses.
C'est-à-dire, on continuait à dire, bon, bah, il vaut mieux acheter IBM que Procter & Gamble. C'était pas le sujet, tu vois. Oui. Est-ce qu'il faut être aux États-Unis? Est-ce que le dollar va monter?
C'est-à-dire que les gens avaient des analyses techniques, encore une fois,
de société. Et puis, ce qui se passait.
En macroéconomie.
Par exemple, moi, ils m'avaient collé analyse financière. Donc, je sais déjà, j'ai recommandé une ou deux affaires à l'époque.
Oui, parce que tu es capable de lire un bilan, un compte d'exploitation.
Je le faisais très bien. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait une valeur qui était très intéressante. Et qui était très endetté, c'était en 72, mais qui a été dans tous les bons secteurs où ça risquait de se passer, et ça s'est passé là. Mais le problème, c'est que les taux d'intérêt de 72 à 74, ou à 78, sont passés de 4 à 16. Donc la société a quasiment fait faillite. Alors qu'elle était vraiment dans tous les bons secteurs, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mais personne ne m'avait prévenu que les taux d'intérêt pouvaient aller de 4 à 16. Tu vois, c'était normalement, ils allaient de 4 à 5 et puis s'arrêter. Quoi. C'était... Donc, il y a des choses qui sont mises à bouger, qui avaient un impact monstrueux. Et en particulier, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à la construction de portefeuille, en me disant, il faut que j'ai des trucs qui s'annulent les uns les autres.
Et donc, qui rendait complètement forclos toute analyse de valeur.
C'est-à-dire que c'était pas forclos, mais c'était vraiment...
En fin de parcours.
Bah,
si à la fin de la journée, tes taux montent de 4 à 16, ta boîte, tu te rends compte tout ce qu'elle doit. Il faut qu'elle fasse du plus 30, 40 pour arriver à absorber
Exactement,
ça.
Exactement, pour absorber ça. Et donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les marchés sont complètement effondrés. C'est ce que je mets dans le premier graphique que vous allez voir là. Et donc, j'ai été voir en disant, mais il faut faire des recherches là-dessus et tout, ça n'intéressait personne. Alors, j'ai trouvé. Avec l'aide d'Erico Bueno, mon associé de l'époque, on a trouvé 4 petits groupes financiers qu'on a convaincus qu'il fallait faire des recherches là-dessus, tu sais. C'est donc la banque Utzwiller à Bâle, Buckminster & Moore à Londres, la compagnie privée de banque à Paris qui était pour le family office de M. Utzwiller père qui vivait à Paris, et puis le quatrième, c'est des Notch Tookie, Beat Notch, mon mentor. Et donc, ils nous ont dit, pendant 3 ans, vous faites des recherches pour essayer de comprendre. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Je dois avoir ça encore dans mes archives quelque part. Donc, j'ai regardé les trucs, j'ai calculé des pourcentages à la main avec une machine à écrire, avec une machine à calculer qui m'avait coûté 600 francs, ce qui était beaucoup à l'époque. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Puis, 2 ou 3 ans après, en 77-78, je me suis dit, ça intéressera peut-être des gens en dehors des quatre, hein, parce que je commençais à les aider à gérer leur argent. Et il y a Warburg, qui était une très grande banque de gestion à Londres à l'époque, avec une femme qui s'appelait Consuelo Brooks, qui était la patronne, et la compagnie d'assurance la Vie d'Abeille, là, qui était une grande compagnie d'assurance en France, qui m'ont dit, on achète. Donc on a eu 2 premiers clients, puis après ça, très rapidement, on a commencé à aller voir les autres. Et donc, en 82-83, on avait à peu près 300 clients dans le monde qui s'abonnaient à cette recherche, qui était la première recherche, je pense, sur l'allocation d'actifs. Tu vois, personne n'avait fait jusque-là des recherches, parce que ça servait à rien, puisque ça bougeait pas.
Oui.
Donc là, c'est ce qu'on appelle l'allocation d'actifs. Donc j'ai sans doute créé la première boîte de recherche d'allocation d'actifs. Et ça se passait dans un marché qui s'écroulait. Alors ça va apparaître sur votre écran, là. Donc les années d'apprentissage, de 1971 à 1980, c'est quand même quasiment 10 ans, vous voyez. Le marché des actions, le rapport entre le marché des actions de New York et l'or baisse de 90%. Donc mon apprentissage s'est passé dans une baisse du marché des actions de 90%, c'est vous dire que si le moral était au plus haut, quoi. Ce qui est amusant, c'est que dans cette période-là, avec ta mère, on a quand même fait 3 enfants. Toi, t'étais la première avant même que j'ai trouvé un boulot. Tu vois, c'était. Et puis ensuite, on a eu Louis. Et alors là, je raconte une anecdote charmante. C'était en 74. Louis devait être baptisé à Saint-Philippe-du-Roule. On habitait juste derrière Saint-Philippe-du-Roule.
Rue de Courcelles.
Rue de Courcelles. Et je discute avec le bon père qui était là, qui allait baptiser Louis. Et il me dit, je suis drôlement content parce que c'est la première fois que depuis 3 ans que j'ai un baptême. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'enfants autour de... Tu vois, c'était devenu un quartier d'affaires. Il n'y avait plus d'enfants dans le quartier. Quoi.
Toujours
le cas. Donc, il était très satisfait. Puis il me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis, vous savez, je suis dans les marchés financiers. Et il me dit, oh là là, j'ai plein d'actions, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je lui dis, mon père, il faut prier. c'était décembre 74. Il faut prier parce qu'on en a besoin. Donc il a dû beaucoup prier parce que c'était quasiment le jour de baptême de ton frère, c'était quasiment le plus bas des marchés. Quoi. Ça, c'est, après, pouf, ça a remonté. Donc je me dis, cet homme a dû beaucoup prier, j'étais très très content.
Juste petite anecdote sur le fait qu'on habitait rue de Courcelles, comme ça, c'est que ma mère a toujours fait très attention à nos écoles et ainsi de suite, et donc elle m'a mis dans une petite école qui n'existe plus, mais qui était assez charmante, et qui s'appelait le Cours Saint-Louis, qui était un peu plus haut.
Oui.
Pour ceux qui connaissent, c'était vers la maison chinoise, indo-chinoise qui...
Qui est de la rue de Courcelles quand on monte.
Et Sarkozy était au cours Saint-Louis et beaucoup de petites filles étaient amenées le matin par leur chauffeur. Mmh. Et un jour, papa m'a amenée le matin à l'école et je lui ai demandé s'il pouvait mettre une casquette Parce que toutes les autres petites filles avaient des papas, pensais-je, qui avaient des casquettes.
Oui, qui étaient avec des... Moi, j'étais pas chauffeur, j'avais pas les moyens d'avoir des chauffeurs à l'époque, mais enfin, c'était... Et vous voyez comme les choses ont changé, parce que quand elle avait pas très vieille, elle avait 4-5 ans, quoi. De temps en temps, elle prenait sur elle d'aller toute seule à l'école, c'est-à-dire qu'elle traversait...
Je traversais le boulevard Malesherbes.
Non, c'était pas le boulevard Malesherbes, c'était le boulevard...
C'est le boulevard Haussmann.
Haussmann, pour aller monter à l'école, passer devant les... et puis tourner à gauche pour aller dans ton école. Donc c'était un moment où les petites filles à 4-5 ans pouvaient se balader dans Paris sans que... Donc j'ai marqué ça, si vous voulez. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de grandes dates... Et vous voyez que très souvent, ces grandes dates correspondent, ces grandes crises correspondent, à ce que je vais montrer aussi tout à l'heure, à des périodes de guerre. Et que ces périodes de guerre ont une influence extraordinaire sur l'énergie. C'est pour ça que je pense à faire ça. C'est qu'on se retrouvait dans une période, dans le fond, si j'ose dire, j'ai rajeuni de 40 ans, là. Et par exemple, la guerre du Kippour et l'arrivée des Mollahs en Iran, ça a été deux énormes pierres dans ce qui se passait à l'heure actuelle. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens se sont rendus compte que le prix de l'énergie, c'est pas quelque chose qui était stable, quoi. Ça pouvait beaucoup monter. Et que même la disposition de l'énergie, c'était quelque chose qui n'était pas stable, puisque pendant la guerre du Kippour, les pays arabes avaient décidé que ni les États-Unis, ni la Hollande, ni je crois l'Angleterre n'auraient accès au pétrole, parce qu'ils aidaient trop Israël. Alors tu vois, c'était donc à ce moment-là, les marchés sont écroulés. Enfin, ça a été, c'est pas des blagues, mais ça a duré quelques temps cette baisse, 10 ans. Et je peux vous assurer qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est que vous attendiez les week-ends avec impatience, parce que le samedi et le dimanche, ça baissait plus.
Oui.
Tu vois, c'est pendant, mais tu allais tous les jours, tu vois, ça baissait. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce putain de métier? Ben, ça nous a pas empêché de faire 3 enfants. Et ça a été très bien parce qu'ils sont très là, ils sont très contents, et maintenant on a des petits-enfants. Donc, j'ai créé la Sécogeste, donc en 73, septembre 73, et littéralement, j'avais pas créé la Sécogeste que la guerre du Kippour commençait. Donc, si tu veux, le timing de la création, ça pouvait pas être pire, mais heureusement, les quatre m'ont bien soutenu. Et puis, donc tout ça, c'est pour montrer que dans cette période des 10 dernières années, à la fin de cette période, vers 78-79, il y a Business Week qui était le grand magazine économique américain, qui avait fait une première page en disant la fin des equities, des actions, parce que ça faisait tellement de temps qu'elles se pétaient la gueule que plus personne en voulait, quoi. Évidemment, c'était le moment où il fallait en acheter, quoi. Et là, je dis quelque chose aux gens qui nous écoutent, qui va peut-être les amuser, c'est qu'à Gavcal, on garde soigneusement toutes les premières pages de The Economist. Vous savez, le grand vrai. Parce que The Economist, les premières pages, très souvent, c'est le signe que c'est devenu complètement dans le marché, tu vois ce que je veux dire. Si l'économiste fait une première page sur, je sais pas, la victoire des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Vous savez,
tu peux être sûr que c'est la Chine.
Tu peux être sûr que c'est la Chine. En tout cas, il faut vendre des affaires américaines, toutes affaires cessantes. Parce que tout le monde en a, quoi.
Il y a des choses qui sont assez sûres dans le monde. The Economist, Bono et Alain Minc.
Voilà, c'est ça. Pour dire Attali aussi, mais il l'exprime de façon que personne ne comprend. Donc c'est embêtant. Voilà.
Mais quand ils vous disent, alors là, s'il y a une chose dans laquelle il faut investir demain, c'est dans l'intelligence artificielle aux États-Unis, tu te dis, je prends mes clics et mes claques et je me casse.
C'est ce que je dis toujours, je vais le dire en anglais, mais c'est reading the financial press is dangerous for your wealth. C'est-à-dire, lire la presse financière, c'est très dangereux pour votre fortune. C'est-à-dire que si les journalistes étaient compétents, ça se saurait, quoi.
Encore une fois, il y a une différence entre les joueurs de tennis et les commentateurs les gradins.
Les commentateurs de tennis, ils sont toujours...
Ils ont toujours plein d'idées, après coup.
Après coup, sur la façon dont l'autre aurait dû jouer. Mais, donc, si vous voulez, tout ça, c'est pour montrer que c'est une période abominable. Hein. C'était la fin du capitalisme. À la fin, il y avait les Russes qui envahissaient l'Afghanistan.
Rappelons-nous, le mur de Berlin n'est pas tombé.
Le mur de Berlin n'est pas tombé. Les Russes envahissent l'Afghanistan. Les États-Unis avaient pris une branlée au Vietnam. En 74, il y avait eu une espèce de coup d'État pour se débarrasser de Nixon. Donc, c'était vraiment nos...
Une inflation absolument galopante.
Inflation galopante, 15-18%. Le FMI à Londres, ce qui était quand même incroyable. Donc, si vous cherchez une période où ça a vraiment été le merdier pendant 10 ans, c'est celle-là. Eh ben, c'est celle-là, pendant celle-là, que j'ai tout appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Et
donc
c'est là qu'on a fait 3 enfants.
On est sur des années Pompidou-Giscard.
On est sur les années Pompidou-Giscard, c'est ça. Et c'est très curieux parce que, dans le fond, c'est dans cette crise, et parce qu'il y a eu cette crise, que j'ai commencé à réfléchir en me disant « je ne veux plus jamais me faire choper par un truc comme ça ». C'est-à-dire où j'ai développé ma façon de réfléchir, qui est « c'est pas tout de gagner de l'argent, encore faut-il ne pas en perdre quand ça va mal ». Donc cette espèce de façon d'éviter les grands à-coups, c'est de là que c'est né. Parce que, donc, encore une fois, il y a des tas de gens qui étaient dans ce métier qui l'ont quitté en disant « j'en ai marre, je comprends rien, je m'en vais ». Moi qui n'ai pas beaucoup d'imagination, je me suis accroché comme un morpion, et puis j'ai fini par essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fait que ça aille mal n'est pas une raison pour renoncer à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent quand ça va mal que tu comprends. Parce que quand ça va bien, quand tout monte et que tu es un génie, tu n'apprends pas grand-chose. Dans le fond, tu apprends que dans les gamelles. Donc ça, c'était la première des choses. C'était pour montrer que là, moi, j'ai commencé, j'ai ramassé que des claques pendant 10 ans. Je crois que quand on est jeune, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Évidemment, le gars qui terminait sa carrière là, pour lui, ça a été un peu embêtant. Mais puis j'ai beaucoup appris. Puis j'ai ensuite... donc, on est parti à Londres en 81. Mais c'était juste pour montrer... Les gens me disent « Oh là là, c'est terrible, je vais pas faire... » Et là, justement, je raconte cette histoire parce qu'elle est vraie. Quand on a eu, je crois, Pauline, la troisième, c'était donc en 78, oui. Il y a des gens, des amis à nous très chers, qui ont vu que la mère était enceinte. Ils ont dit « Mais enfin, Charles, et ben Emmanuel, et Chantal... » C'est la crise.
Oui.
Vous vous rendez pas compte que vous faites des enfants dans la crise. Et je leur ai dit, vous savez, mon père, il a fait 3 ou 4 enfants, en étant condamné à mort par Vichy. Pour l'instant, ça va plutôt mieux. Donc, cette idée que la peur doit vous empêcher de prendre des décisions à long terme, comme d'avoir des enfants, est une idée complètement con. C'est une idée littéralement diabolique, c'est-à-dire que tu refuses la transmission, tu refuses tout ça. Simplement parce que la bourse s'est pété la gueule. Sauf qu'il n'a pas... Enfin, je veux dire...
Oui, non.
C'est pas la fin du monde. Encore une fois, je montre ça parce que vraiment, il était difficile d'avoir une décennie plus difficile. Bon, donc ça, c'était la première des choses. Ça, c'est ma carrière, au début.
Au début, jusqu'en 80.
80, puis après, on est parti pour Londres, puis ensuite, ça s'est développé, etc. Mais ça, je voulais vous montrer que le début... C'était tout sauf rose. Mais c'est marrant parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir été angoissé, presque philosophiquement. Je ne me suis pas posé de questions sur fins dernières de la vie.
Plusieurs choses. Déjà, premièrement, tu venais d'une famille où on ne parlait pas d'argent parce qu'on ne parlait pas des absents.
Oui.
Parce que, étant d'une famille de militaires, vous étiez 5 enfants, vous n'avez pas l'habitude de rouler sur l'or. Donc, de toute façon, vivre sans avoir beaucoup de sous... Tu savais faire et vous saviez faire. Maman était très resourceful. Elle avait plein de façons de contourner.
Oui.
Et on n'a jamais manqué de rien.
Non, c'était... le contrat que j'avais négocié avec les 4, qu'ils ont très bien respecté, ça m'a permis de... Justement, j'ai eu 3 ans où j'ai pu vraiment faire des calculs de bénédictin.
On n'avait pas, évidemment, de vacances on allait chez mes grands-parents...
dans la région de Toulouse.
Dans le sud-ouest. Maman cousait nos robes et... à partir du 15 du mois, on faisait des détours pour plus passer devant la banque. Ça, c'est véridique. Maman changeait de trottoir. Mais sinon...
Vous pouvez vous imaginer. Encore aujourd'hui, quand je reçois une lettre de ma banque, j'ai des sueurs froides. Alors qu'il n'y a plus de raison. Ça laisse des vieux avoir un petit découvert à la fin du mois.
Moi, je me souviens quand on était petit, maman donc prenait la voiture et on allait jusqu'à un centre Leclerc qui avait ouvert je sais pas où, mais qui était loin de Paris parce que faire les courses coûtait beaucoup moins cher. Donc on prenait la Simcamille, on allait. Enfin, c'était l'épopée d'une après-midi, le mercredi, et d'aller faire les courses. Et quand maman faisait les courses, c'était pour pour c'était bien 15 jours.
Ouais.
Et on stockait avec des produits vraiment pas chers.
Ouais, ouais.
Et je me souviens, d'ailleurs, en tant qu'enfant, c'est le moment où j'ai su qu'on était devenus riches, c'est que normalement, maman nous disait, OK, vous pouvez choisir les biscuits, mais il fallait prendre que les biscuits qui étaient en bas des allées. Et un jour, quand on était à Londres, je devais avoir 14-15 ans, on est allé faire les courses. Et je suis revenue avec des Fingers de Cadbury. Et maman m'a laissé les mettre dans le caddie. Et là, j'ai su qu'on était arrivé. Je dis là, maintenant, on peut mettre les Fingers Cadbury dans le truc. C'est bon.
Voilà, mais c'est un signe qui ne trompait pas.
Ouais.
Donc ça, c'est nous, la famille. Le truc, on s'est dépatouillé. Puis bon. Maintenant, passons à notre pays. Alors, à peu près pendant la même période, mais plus longue. Cette fois-ci, je regarde, non pas les 10 premières années, mais mettons depuis 1980. Et comment vous jugez un pays ? Ben, vous jugez un pays par la façon dont ce pays traite les gens qui prennent des risques. Il est normal, si tu prends des risques, que ta rentabilité soit convenable. Tu vois, c'est en moyenne. Et donc, il y a un outil dans l'appareil statistique que fournit l'INSEE qui s'appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises, dont on vous a parlé souvent. C'est simplement ce qui reste dans la caisse une fois que l'entreprise a tout payé. C'est-à-dire qu'on a payé les loyers, on a payé les impôts, on a payé les employés, on a payé, et puis sur un coup de pot, il reste quelque chose à la fin, quoi. Ça s'appelle le profit, mais qui est très mal, hein. Il faut pas en faire des profits, c'est très très mal. Donc, la marge brute d'autofinancement des entreprises, c'est la ligne bleue. Et vous voyez que depuis à peu près 1980, depuis l'arrivée de M. Mitterrand, là, vous avez d'abord un effondrement de la ligne bleue. C'est quand on a à la fois la hausse des prix du pétrole et les nationalisations et toutes les conneries de... Bon. De 85 à 87, on a viré les socialistes. Il y a Chirac qui est Premier ministre, qui suit une politique libérale, tout à fait libérale, qui marche très bien. Et donc la marge brute d'autofinancement remonte très fortement. Et le franc français a beaucoup dévalué, donc ça aide aussi. Et puis les Français décident que non, ils vont réélire Mitterrand, parce que c'est quand même le roi des cons, il faut surtout le maintenir au pouvoir. Et donc la marge brute d'autofinancement ne cesse de rebaisser. Vous voyez qu'on a eu 4 ou 5 grandes crises dans l'histoire de la France depuis 1981. Vous avez eu de la crise énergétique. Bon, ça c'est bien. La deuxième grande crise, ça a été la réunification de l'Allemagne, avec des taux d'intérêt pas possibles. La troisième grande crise, ça a été la grande crise financière de 2009-2010, là, avec la crise de l'euro à la fin. Et la quatrième, ça a été le Covid, etc. Et bien, vous voyez que dans chacune de ces grandes crises, c'est la ligne bleue qui dépasse toujours. Et c'est la caractéristique de la France qui est pas vraie des autres pays. Dans les autres pays, tout le monde prend la claque. Tu vois, la ligne bleue reste à peu près à l'horizontale. Nous, on a décidé que c'est pas le consommateur, c'est pas le fonctionnaire qui va payer, c'est l'entreprise qui va à chaque fois voir sa rentabilité baisser.
Alors que par ailleurs, le récit public et le récit médiatique est toujours de dire, peut-être depuis les expériences Gilets jaunes, mais en tout cas, que ce serait le consommateur et le retraité qui perdraient en pouvoir d'achat, laissant complètement de côté le narratif sur les entrepreneurs.
C'est pour ça que la France s'est désindustrialisée, c'est voilà. Que c'était plus la peine de faire bâtir des choses en France.
Et dans le même temps, on a la gauche qui, au contraire, nous dit « Ah là là, ce sont les entreprises qui amoindrissent la richesse des autres. »
Voilà. Pour le type de gauche, toute hausse de la ligne bleue est un vol qui fait sur le...
Oui, mais toute baisse n'est absolument pas commentée.
Jamais. Non, mais elle est désirable, puisque ça veut dire que les entreprises gagnent de moins en moins, ce qui est une bonne chose dans la mythologie de ces gars-là.
Du reste, aussi, on va faire en sorte qu'elles consomment de moins en moins d'énergie aussi, ce qui est quand même la meilleure façon de s'assurer qu'elles s'asphyxient.
Même si on produit de l'énergie pas chère, on va la vendre aux Allemands, mais on va pas en faire profiter le boulanger français. C'est parce que ça serait pas bien aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand tu regardes ce graphique, tu te dis, dans le fond, la France, ça fait 50 ans maintenant, ou 45 ans. Tu connais la parabole des talents dont je parle souvent, c'est-à-dire qu'elle prend le talent de celui qui a pris des risques, les 4 talents là, qu'elle les prend pour les donner à celui qui l'enterre et qui prend pas de risque, c'est-à-dire le fonctionnaire et le gars qui bosse pas, quoi. Donc ça fait 50 ans que la France pénalise tous ceux qui prennent des risques. Et si tu prends pas de risque et si tu pénalises ceux, c'est ce que disait Milton Friedman, si tu payes les gens à ne rien foutre et si tu taxes ceux qui bossent, faut pas s'étonner si le chômage augmente. C'est-à-dire que ça, c'est une politique qui, en faisant baisser la rentabilité entre entreprises, automatiquement augmente le chômage. Parce que plus personne ne peut embaucher, puisque personne ne gagneront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique française, la France est le seul pays de l'OCDE où le taux de chômage, depuis 1978-79, soit jamais tombé en dessous de 7%. Jamais. Dans les autres, quand il y en a un boom, ça baisse. En France, on est toujours au-dessus de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la classe dirigeante française a besoin de chômeurs pour rester au pouvoir.
Oui.
Et ils suivent une politique de façon à avoir des clients à qui tu distribues les tickets de rationnement. Donc, pour la gauche ou la droite en France, l'ennemi, c'est pas la gauche si t'es de droite ou la droite si t'es de gauche, c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire que la France a été gouvernée contre les entrepreneurs depuis 50 ans. Mais sans arrêt. Et donc, si tu veux, c'est l'Union soviétique, quoi. Et ça va sauter pour la même raison, parce que la seule façon de financer tous ces tickets de rationnement, là, pour les gens qui ne travaillent pas, c'est la dette.
Bien sûr.
Et un jour, quand on n'aura plus du tout d'industrie ni rien, plus rien à vendre, les gens ne nous prêteront plus. Et à ce moment-là, le niveau de vie se ratatinera et on n'en est peut-être pas très loin. Et la crise qui arrive va peut-être accélérer ce moment, parce que, comme j'ai essayé de le montrer dans les émissions précédentes, quand tu as une hausse du prix de l'énergie, ça veut dire que la rentabilité des affaires baisse, la ligne bleue baisse. Ça veut dire que le chômage augmente. Ça veut dire que les rentrées fiscales baissent, les sorties fiscales augmentent. Et ça veut dire que le déficit budgétaire augmente. Mais aujourd'hui, tu peux te poser la question, c'est qui va nous prêter les 400 milliards d'euros dont on va avoir besoin?
Qui va nous prêter? D'autant plus que je viens de voir passer hier le budget de M. Trump.
Mais quoi, t'en fous, 1500 milliards pour la défense.
Avec tout rogné sur l'OAS, mais sans parler de ça. C'est-à-dire, si les États-Unis demandent aux investisseurs et donc au monde de financer...
Leur déficit budgétaire, comment ils vont financer le nôtre? C'est la question. Et en plus, si tu veux, les gens qui finançaient, c'était beaucoup les gars du Moyen-Orient, le Qatar et tout. Mais il est probable qu'ils vont avoir besoin de leur pognon pour reconstruire une partie de ce qu'ils font. Donc ils vont cesser de nous acheter des trucs.
Comme l'a dit Marine Le Pen, assez intelligemment, à la tribune, je l'ai entendu dire ça, en disant qui va acheter nos OAT alors que le Moyen-Orient va devoir garder ses sous pour se refinancer.
Peut-être vendre un certain nombre des OAT pour acheter des Mirage, je sais pas. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc,
compter que peut-être que les pays du Moyen-Orient vont être assez pas chauds pour acheter des obligations américaines pour que par derrière, ça finance la défense pour qu'on leur colle un peu plus de bombes dessus.
Mais en même temps, ils peuvent se poser la question tous, pourquoi je finance ces gens qui prétendent représenter le bien, le beau et le vrai, alors qu'ils passent leur temps à pas produire, à me filer des petits bouts de papier, et il n'y a pas de raison, quoi. Donc, la Chine de l'autre côté, elle leur prête de l'argent.
Moi, j'ai trouvé, quand j'ai vu là le bilan, enfin, la demande d'armement de Trump, qu'on marche sur la tête. Je me suis dit, mais là, il est fou.
Alors,
enfin, bon,
t'es sur la France. Donc, pendant que moi, j'apprenais comment la vraie vie fonctionnait, notre classe dirigeante, elle désapprenait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un mouvement. Je suis arrivé, moi, il y a l'autre qui ronfle là, je suis arrivé quelque part en 81, 70, quand je suis sorti de l'université, je devais être vaguement social-démocrate, trouvant que ça marcherait bien, racontait pas que t'es conneries, tu vois, je trouvais ça, j'ai un mec normal. Et puis au bout de 20 ou 30 ans, je me suis dit, mais il faudrait surtout que l'État s'occupe pas de création de richesse parce qu'il ne sait pas faire. Donc moi, mon apprentissage, ça a été d'apprendre des erreurs que faisait mon pays. Tu vois, c'était, je les voyais, j'en discutais, j'ai commenté, et puis je les comprenais petit à petit, ça m'a mis du temps à comprendre. Donc pendant que je me formais, j'apprenais comment le monde fonctionnait, notre classe politique, lui... Il investissait en fonction de la façon dont il pensait que le monde aurait dû fonctionner.
Et on a eu quand même, rappelons-le, pour nous, sous les yeux, l'expérience de la Grande-Bretagne. Parce que quand nous arrivâmes à Londres en 81, on était encore dans les affres du post-travaillisme qui s'était maintenu.
Et du FMI.
Et du FMI. Et nous, quand on est arrivés, on était quand même dans un Londres qui était extrêmement lourd, avec tout était fermé pour avoir une ligne de téléphone posée. Il fallait attendre 2 mois.
Il n'y avait que deux boutiques sur King's Road.
Oui, c'était hallucinant. Tout était, je me souviens, les dimanches en Angleterre, on n'imagine pas. C'était Waterloo, Morne-Plaine. Même les pubs devaient fermer, je crois, à 14h. Il y avait une cloche et ils te disaient qu'il fallait partir à 15h. Et le soir, c'était...
Le dimanche à Ville d'Avray, il y avait eu un film comme ça en France où il se passait vraiment rien.
Il y avait trois chaînes de télévision.
C'était vachement bien parce que sur une, il y avait des...
Un
reportage sur les pingouins, ou encore mieux, il y avait les chiens de berger écossais qui faisaient rentrer les moutons, c'était vachement intéressant. Et sur l'autre, il y avait un truc de snooker, vous savez, de billard, et le troisième, c'était
des darts.
Donc c'était quand même très très intéressant.
Et en été, du cricket, c'est-à-dire que tu vois des mecs courir, c'est pas ce qu'ils font. Ça dure 2 jours.
Eux non plus, d'ailleurs.
Mais ils sont très bien habillés.
Et s'il pleut, tout le monde arrête. Alors, c'est voilà. Pas dire. Donc, si vous voulez, c'était l'Angleterre en 1980-82, c'était Varsovie. C'est-à-dire qu'ils avaient été passés par Vincent le socialiste, mais vraiment, ils étaient dans une pauvreté affreuse, quoi. Puis j'ai vu ça remonter, c'était incroyable. Donc, c'était intéressant. J'avais acheté, d'ailleurs, je raconte cette histoire. Mais en fait, c'est un petit peu un truc de commentaire sur ma vie, donc j'ai le droit de raconter l'histoire, quoi. Pour nous loger, on avait acheté un bail à court terme.
Parce que vous savez, enfin je sais pas si vous le savez, mais en Angleterre, ils ont ce qu'on appelle des bails emphytéotiques, c'est-à-dire
emphytéotiques. Et c'est-à-dire que ce que vous avez, vous achetez le droit de garder cet appartement, par exemple, pendant 99 ans. Et puis au bout de 99 ans, le tout, l'appartement, etc., la construction que vous avez faite dessus retourne au duc de Westminster, etc., qui sont d'énormes fortunes. Donc c'est comme ça qu'il est. Donc vous achetez en Angleterre le droit d'utiliser, et si quelqu'un l'a acheté pour 99 ans et qu'il y vit 20 ans, il vend les 70 ans qui restent aujourd'hui, tu vois, comme ça, bon. Donc moi j'avais acheté un truc qui était sur un endroit absolument ravissant à Londres, qui est Gadogan Place, qui est un très bel endroit où il restait 5 ans à courir. Donc en 81, donc j'avais payé les loyers, 5 ans d'avance, boum. Et puis on doit déménager au bout de 2 ans parce qu'on avait trouvé autre chose.
Surtout que c'est pas ça, c'est que maman avait, il y avait 2 chambres pour les enfants et maman était enceinte d'Edouard.
Oui, c'est ça.
Il était temps de bouger.
Parce qu'en plus, on en avait fait un quatrième à Londres, pour ajouter la suite à l'injure. Et donc, j'ai vendu ce qui restait 3 ans et j'ai doublé. C'est-à-dire que j'ai doublé sur ce que j'avais mis pour 5 ans. Je me suis dit, c'est bien ce pays, parce que vous achetez des loyers, puis vous les trouvez, ça m'a permis.
Donc c'est comme si on avait habité pendant 2 ans gratuitement, et
plus,
en plus
d'avoir des sous en plus. Donc c'est quand même curieux, et j'ai toujours pensé que des pays comme l'Angleterre ou Hong Kong, où le même système existe de baux emphytéotiques, c'est une bonne façon de prélever des impôts, parce que, par exemple, à Hong Kong, la terre appartient au gouvernement de Hong Kong, donc ils vendent 100 ans, et ils ont tous les ans une partie qui revient, où ils en prennent la pleine propriété, comme ça, ça évite de... payer des impôts, tu vois, parce que donc je me suis dit, faire payer les impôts sur la richesse non gagnée qui est l'immobilier, je trouve que c'est une bonne formule de, dans le fond, Dieu sait que je suis libéral, mais que la terre, les biens appartiennent à l'État et qu'ils vendent l'usufruit de ça pour 100 ans et qu'à partir de ça, ça évite de payer des impôts au reste de la population. C'est pas une façon idiote de payer l'impôt, parce que tu payes les impôts sur le gars qui a pas pris de risque, tu vois. C'est, donc ça a été la France, ça s'est pas très bien passé. D'après ce que vous avez, c'est pas fini, l'histoire est pas finie, mais elle est jamais finie. Et maintenant, je vous amène au troisième, c'est donc on est passé de ma pomme à la France, et maintenant on va passer au monde. Hein. Alors là, on remonte encore en arrière. Et voilà, je vous montre, donc là, c'est donc les taux d'intérêt, inflation et guerre. Alors, la ligne rouge ici, c'est simplement l'inflation sur les 12 derniers mois. Il y a l'autre qui tousse maintenant. L'inflation sur les 12 derniers mois. Vert, que vous voyez à peine sur votre hachurage vert, c'est quand les taux d'intérêt sont trop bas pour des raisons keynésiennes. Vous savez, il faut maintenir les taux d'intérêt bas pour que les riches puissent s'enrichir et les pauvres puissent s'appauvrir, ce qui est quand même une bonne idée. Et donc vous voyez, de 1940 à, mettons, la chute du mur de Berlin, allez, Ben, on est sans arrêt dans une période où les taux d'intérêt sont trop bas, à peu près, avec des pics, avec l'inflation qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et chacun des pics d'inflation, pour ainsi dire, c'est une guerre.
Oui.
Faite par les États-Unis.
Je pense qu'on n'apprendra à personne que les guerres sont naturellement inflationnistes.
Ben, évidemment. Donc, tu vois, là. Donc, tu as la Corée, tu as la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Kippour, la crise de Cuba, la chute du Shah, etc. Tout ça, ça correspond à des grandes. Et puis, arrive donc Volcker, arrive tous ces gars-là, et ils suivent des politiques pour une fois en 1980 qui empêchent l'inflation. L'inflation cesse. Et du coup, d'ailleurs, l'Union soviétique saute 8 ans après. Parce que c'était une façon de... Donc, on a quasiment plus de guerre. Et puis, je sais pas pourquoi, les Américains apparemment ont besoin de guerre. Ils relancent le truc en Ukraine. Les États-Unis sont loin d'être innocents de tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui.
Avec le succès qu'on connaît.
Et puis maintenant, il y a la guerre en Iran avec le succès qu'on connaît. Et donc, on est re-rentré dans une période à nouveau où il va y avoir de l'inflation. C'est-à-dire que l'histoire, c'est... Guerre égale inflation, fin de la guerre égale période normale, tout va bien. Et je ne sais pas pourquoi, les États-Unis veulent absolument qu'on ait à nouveau des guerres, et relancent de la guerre et relancent de la politique monétaire imbécile en même temps.
Alors, certains vont te dire, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies derrière, de l'armement qui...
Je ne sais pas, mais ce qui est étonnant, c'est apparemment, il y a des gens qui bénéficient de ces hausses d'inflation, parce que les hausses d'inflation, ça transfère encore beaucoup de pognon des pauvres vers les riches. Donc, quand je regarde ça, je me dis que ça ressemble beaucoup à une politique qui a été faite par une plutocratie pour continuer à s'enrichir, alors qu'ils sont déjà riches comme des puits.
Mais donc... c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on a déjà le top 1% qui est quelque part très très bien mis. Pourquoi ? Enfin, j'espère que ce n'est pas des gens comme M. Bernard Arnault et ainsi de suite. Enfin, c'est
non,
pour
non,
le
non,
citer.
Ils ne seront pas dans la guerre parce qu'ils vendent du luxe, ça ne les intéresse pas. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a... Pour gagner dans la guerre contre dans la guerre froide là contre l'âge, il fallait qu'il y ait béton que les communistes aient été des salopards. Bon, très bien. Mais pour lutter contre des salopards, il faut quand même avoir des salopards chez soi, quoi. Et donc il y a eu une espèce de classe qui s'est créée aux États-Unis, la CIA, etc. Qui manipulait pas la société américaine, mais enfin était prédominant dans le Congrès, etc. Bon. Ces gars-là se retrouvent un petit peu désœuvrés pendant cette période-là. Mais, aussi curieux que ça paraisse, de 1990, quand le mur de Berlin est tombé, le budget de la défense aux États-Unis n'a cessé de monter. Et les États-Unis ont aujourd'hui plus de 900 bases partout dans le monde.
Mais tu vois, c'est là où je n'arrive pas à réconcilier le move, entre guillemets, ce que font les Américains. Parce que Trump est élu sur une base MAGA qui dit précisément l'inverse. Nous allons couper dans toutes les dépenses, nous allons couper dans les dépenses de l'armement et nous allons sortir de toutes nos bases africaines et nous allons décroître et nous replier... aux États-Unis. Or, là, on assiste à quoi ? On assiste à une Ukraine qui ne cesse pas, alors qu'on nous avait dit que ça allait cesser. Et on assiste à quoi ? Une guerre en Iran, dont on avait besoin quand même comme un trou dans la tête, avec une augmentation, là, qui va aller, mais qui est absolument stratosphérique.
Alors que ça ne sert à rien, puisqu'on est en prix aujourd'hui qu'avoir des porte-avions qui coûtent 12 milliards de dollars à faire. Et vous pouvez pas
face
même
à
pas
des drones à 20 000 balles.
20 000 balles qui descendent et qui foutent le feu. Donc, on a aujourd'hui la réalité, c'est que la Grande-Bretagne puis les États-Unis ont dominé le commerce mondial qui passait par la mer. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer dans un de mes derniers livres, mais le commerce mondial, il va se passer maintenant sur un triangle qui aura lieu de Moscou à Pékin, à Delhi, là, dans le... Et ça va être l'Asie, où il y a quand même la quasi-totalité de la population humaine qui vit. Ça va se passer en Asie, et ça se passera par la Terre. C'est-à-dire que les États-Unis sont en... que j'ai aussi écrit, sont en train de perdre leur empire. Et qui était fondé sur le dollar et sur la mer. Et aujourd'hui, ni le dollar ni la mer ne sont importants, parce que la mer, maintenant, a des outils, là, à l'entrée du golfe d'Aden, là, ils peuvent empêcher tout le monde de passer avec 40 drones, quoi. Donc, aujourd'hui, tu peux dire sans crainte de te tromper que la domination du monde anglo-saxon par la mer, c'est fini. Et donc, moi, l'analyse que je faisais, c'était que donc le rôle de Trump, c'était d'extraire les États-Unis de l'empire américain, de laisser tomber l'empire pour rebâtir les États-Unis. Un peu ce que De Gaulle avait fait avec l'empire français quand il a disparu, ben on a essayé de rebâtir la France.
C'est ce que tu disais, c'est-à-dire extraire la nation de l'empire.
L'empire.
Et c'était ton analyse il y a un an quand tu t'es passé chez Mathieu Bock-Côté, qui avait tout à fait un sens et qui était d'ailleurs
la réalité de sa campagne et de ce que disait le vice-président.
Ce que disait Monsieur Vance à Munich et par ailleurs c'était une tâche ardue parce qu'effectivement faire naître une nation d'un empire.
Se préserver la nation à l'origine de l'empire, de l'écroulement de l'empire, c'est un gros boulot. C'est ce qu'avait fait Atatürk. Bon, il a sauvé la Turquie, puis maintenant qu'il revient en force. Mais ça, c'est... Et puis d'un seul coup, en mars-avril de l'an dernier, Trump a fait un virage à 180 degrés et est reparti sur toutes les folies de l'empire. Donc il est en train d'essayer de sauver l'empire, qui n'est pas sauvable. Et donc, s'il va en payer le prix, c'est les États-Unis.
Le dollar, parce que a priori, le dollar, something has got to give, et ça va être le dollar. La monnaie va exploser, là.
Mais la question, c'est s'il faut financer 1500 milliards de dollars pour l'armement, pas un armement dont tout le monde se rend compte qu'il a servi à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même très étonnant. Il va pas, il a besoin de 1500 milliards de dollars pour faire des drones, mais à ce moment-là, la Terre entière va être couverte de drones. Donc, on comprend pas très
ou
bien.
Ou un nouveau porte-avions, ou est-ce que je sais ce qu'ils
ont
faire?
Ils ont 12 porte-avions qui servent plus à rien. Donc, en bâtir un 13e, ça va changer quoi? Donc, il y a donc énormément de pognon. Ce que me disent des amis américains, c'est que j'imagine mal le fric qui circule dans le monde étatique aux États-Unis aujourd'hui, avec lequel ils achètent...
Alors que M. Musk était censé couper là-dedans. C'est pas du tout de la faute de M. Musk, c'est qu'on l'a
remercié. M. Musk, il avait commencé à faire du très bon boulot, puis on l'a arrêté au bout de 3-4 mois. Et c'était un très mauvais signe, ça, qu'on l'a arrêté. Et donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gars qui contrôlent donc les États-Unis, le monde, allez, hein, puisqu'on est passé de ma pomme à la France au monde, on a l'impression qu'ils se disent c'est foutu, il faut que je m'en mette le plus que je peux dans les poches aujourd'hui. Moi, c'est l'analyse que je fais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a une série de salauds qui disent bon, ben, puisque ça va cesser, il faut que je mette le maximum de fric aujourd'hui, quoi, tu vois,
Ah ouais, on en est là.
Bah, j'en sais rien, mais c'est la seule explication. Ou alors, Trump est devenu complètement gâteux, ce qui n'est pas impossible qu'il soit devenu fou, parce qu'il n'est pas jeune. Hein, puis il est...
Non, il a pu faire un AVC qui aurait été occulté.
D'un seul coup, il se met à penser de travers, ce qui n'est pas impossible.
Oui, et de sorte que c'est des conseillers de l'ombre qui prennent les décisions pour lui.
Oui, comme Biden, hein, c'est-à-dire... Ou alors, c'est que... j'hésite à le dire, mais que Trump faisait partie...
De Epstein ?
Non, pas d'Epstein, mais de ce groupe qui contrôlait l'Empire, tu sais, le Deep State, on lui a donné des ordres d'arrêter les bêtises, je sais pas. Mais
oui,
il y a quelque chose
que
je comprends
pas.
C'est
ce que je te dis avec Epstein, c'est que ça serait comme si quelqu'un avait des trucs sur lui et qu'on le faisait chanter, et que d'où le revirement à 180. Que ça soit ça, ou que ça soit un truc des Deep State, ou un pays tiers.
Un pays tiers, je sais pas. Alors, on parle beaucoup. Je sais pas exactement de ce que. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la structure de pouvoir. Entre le moment où Trump a été élu et mars-avril 2025, où d'un seul coup, il y a eu un revirement à 180 degrés qui s'est passé, quoi. Et ça, je réussis pas à l'expliquer.
En tout cas, on se retrouve aujourd'hui avec des prises de décision cacophoniques qui ne veulent rien dire.
Rien dire. Et une espèce de discours qui est, je vais vous ramener à l'âge de pierre, qui n'est pas... Les États-Unis étaient ce qu'on appelait un hegemon, bénévolent, gentil. Enfin, pas tellement...
Oui, enfin, la blague
là,
de l'oncle bienveillant...
Le truc, ils sont plus bienveillants du tout, parce qu'ils veulent faire... Je veux dire, je vais vous ramener à l'âge de pierre, c'est pas... Donc, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans l'éthos, la morale de la puissance dominante aux États-Unis, qui est que leur truc, c'est de dire, je veux retourner à un moment où j'étais le seul pays dominant, tu sais. Mais ça, c'est fini, mon grand. T'as plus l'appareil industriel, t'as plus l'appareil scientifique, t'as plus tout ça. Donc, on a l'impression du gars qui cherche à fouetter la mer, tu vois, parce que ils ont perdu la bataille navale, quoi. C'était l'empereur de Perse qui avait fait ça quand il avait pris une branlée par les Athéniens, là. Je sais plus quelle bataille navale, d'ailleurs. Il avait fait fouetter la mer. Bon, on a l'impression qu'aujourd'hui, Trump fait fouetter la mer. Alors, cette incertitude-là crée une incertitude énorme sur le prix du pétrole, sur l'énergie, etc. Mais ça ne change pas la thèse de fond. La thèse de fond, c'est qu'ils vont perdre de toute façon. Mais ils vont perdre, si j'ose dire, sans les honneurs. Mm. Ça va être comme quand ils ont quitté Saigon, tu vois, avec les gars qui s'accrochaient à l'hélicoptère. Bon. Donc, alors qu'ils auraient pu sortir avec... une espèce d'élégance en disant, ben, on garde les États-Unis, la partie, le continent nord et sud-américain et tout. Donc, là, la probabilité de quelque chose d'extrêmement désagréable arrivant sur les actifs financiers américains augmente jour par jour. Quoi.
Ouais,
mais
sûr.
Ça, il n'y a pas de raison que ça implique de l'Asie. Ça va toucher l'Europe, mais peut-être pas l'Amérique latine. Donc, le problème dans la gestion de tout ça, ça va être d'isoler les portefeuilles de ce maelstrom qui va se passer là.
J'ai vu dimanche que les obligations d'État japonaises remontaient bien. C'est-à-dire que face à ça, face à Monsieur Trump qui va prendre des décisions complètement absurdes, le reste du monde, même si ça prend un peu de temps, va se positionner en fonction du fait qu'on ne peut plus effectivement considérer les États-Unis comme un géant bienveillant.
Le deal, c'est que les États-Unis protégeaient ton commerce sur la mer, donc tu pouvais continuer à acheter, à vendre. Aujourd'hui, ils ne protègent plus rien du tout. Donc
oui, mais
pourquoi tu veux financer leurs dépenses militaires ?
Par ailleurs, effectivement, le S&P, le Nasdaq, va arriver un moment où ils vont se dire « Écoutez les gars, on ne sait pas si on peut vraiment jouer l'IA à fond parce qu'on a un fou... »
D'abord l'IA, et puis surtout les obligations. Les obligations, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4,3 aux États-Unis. Très bien, mais en même temps, si tu veux, tu as deux choses dans un rendement obligataire. Tu as l'intérêt, le return on capital, c'est-à-dire la rentabilité de ton placement année après année. Et puis le deuxième, c'est le return off capital, c'est-à-dire est-ce qu'on va te rembourser.
Et là, le risque États-Unis devient réel.
Devient off capital, c'est-à-dire est-ce que tu seras remboursé ou autre chose. Et la réponse est, j'en suis pas sûr du tout. Donc, j'ai aucun doute que je serai remboursé sur mes obligations japonaises, mais sur mes obligations américaines, je suis pas sûr.
Là, quand on commence à voir la taille du bilan.
Voilà. Et surtout qu'ils continueront à émettre, mais ils vont émettre 2000 milliards de dollars l'année prochaine, c'est fou. Donc, aujourd'hui, cette nouvelle politique américaine fait monter le risque à court terme.
Oui. De rupture.
De rupture. C'est-à-dire que ce que les gens oublient, c'est que dans ma période de grande période, au début des années 60 et 80, là, il y a des moments, dans les années 70, où les marchés ont été fermés. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu voulais vendre, mais tu ne pouvais pas. Par exemple, je me souviens, c'est la fin 74, je crois que le marché de Hong Kong est resté fermé pendant 15 jours parce que personne ne réussissait ni à vendre quoi que ce soit. Tu vois, il n'y avait pas d'acheteurs.
Bah, il y a eu ça en Grèce.
Il y a eu ça en Grèce.
Il y a eu ça au Liban. C'est-à-dire que tout à coup, sur des plus petites places, évidemment, que les États-Unis.
Hong Kong, c'était... Donc, il y a un risque de rupture de transaction, c'est-à-dire que de discontinuité du marché. Et ça, je ne sais pas faire. Donc, quand je vois... personne ne sait faire. Et donc, la seule solution, quand ça se passe, c'est de pas y être, du tout. Donc, c'est quand même curieux, mais...
D'où l'Asie, d'où partie en or, encore une fois, en termes d'antifragile.
Les valeurs pétrolières, parce que c'est quand même
parce
le
pétrole. Parce que c'est du tangible.
C'est du tangible, et puis ça...
Et puis c'est pas aux États-Unis, per se.
Il y en a qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont ailleurs. Donc, ce que je veux dire
par là,
c'est...
De toute façon, les pétrolières, même à l'intérieur d'elles-mêmes, sont diversifiées. Elles n'ont pas un site qu'aux États-Unis, elles sont diversifiées.
Elles en ont partout. Vous achetez Total, vous avez des trucs partout.
Même
Et surtout que maintenant, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que comme ils ont foutu en l'air quelques grosses raffineries, les raffineries actuelles, pour la première fois de leur vie, gagnent de l'argent gros comme elles. Quoi.
Oui, mais alors, là, c'est un autre débat, c'est que...
Il y a les crétins qui vont essayer d'empêcher de...
Évidemment. Tu penses bien que l'Assemblée nationale française, pour ne prendre qu'elle, sont vent debout en disant il faut faire une taxe exceptionnelle pour taxer les profits exceptionnels. Et ils vont y arriver parce que c'est ce qu'ils font.
Aucun problème, il n'y aura pas de profit exceptionnel parce que du coup, si...
Là, ils feront tout remonter en Irlande.
Non, mais c'est pas ça. C'est que, ce qui se passera, c'est que les produits raffinés... On a très peu de raffineries, franchement, qu'il en reste une autour du Havre, je ne sais plus où. Il y en a très peu, donc les produits raffinés, ils ne seront pas vendus en France. C'est-à-dire que les Français, ils n'auront pas d'essence. Mais elle ne sera pas chère. Hein. Mais ils n'auront pas d'essence du tout, ils iront à pied.
Et
donc il faut taxer maintenant, il faut taxer les fabricants de chaussures. Parce que les chaussures vont s'user beaucoup plus qu'autrefois. Donc il va y avoir des profits tout à fait exceptionnels qui vont être faits par les fabricants de chaussures, parce que les gens iront tous à pied. Mais je donne ça au Parlement français, parce que ça me paraît une solution qui leur conviendrait. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que on pensait que la fin de l'Empire américain, ça allait se passer gentiment. Et non. Donc, alors les gens me posaient la question ce matin, Clémence me posait la question, Clémence, oui.
Oui, Clémence Odiakova, chez Toxin, on embrasse.
On aime beaucoup Clémence ici dans cette maison. Me posait la question, mais alors qui va mener le monde? Je lui ai dit, personne. On va dans un monde qui va être complètement diversifié, où il y aura des centres de pouvoir partout, mais personne ne va donner... Il n'y aura plus d'empire, il n'y aura plus de puissance dominante, vous aurez des... vous passez d'une dictature à des tas de petites... Donc ça veut dire que des trucs comme l'Europe, la seule chose qui compte, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire que les nations vont revenir à la surface et tous les trucs non nationaux vont crever. Pas d'autre solution, parce que pourquoi je devrais faire attention à ce que dit Mme von der Leyen sur le prix du pétrole, alors que nous, on a Total et on a l'énergie nucléaire, et ils ont ils ont ni Total ni l'énergie nucléaire, donc pourquoi je filerais les avantages de la France, Total et l'énergie nucléaire, aux Allemands, qui ont fermé leur énergie nucléaire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va retrouver les solidarités essentielles, qui sont des solidarités nationales.
Il y avait un film comme ça, je me souviens plus du titre, mais où c'était un type qui avait fait croire à des juifs pendant la guerre que Hitler était toujours là, et pendant des années après, il les faisait coudre dans sa cave. Ce dont j'ai un peu peur, c'est que on continue nous-mêmes à coudre dans la cave.
À continuer dans la cave. Alors que... il y a de temps en temps un gars qui va sortir là par un soupirail. Et qui dira, dites les gars, il n'y en a plus, c'est fini. Donc je veux dire par là, dans le monde de l'Internet, c'est difficile d'expliquer que Hitler est toujours au pouvoir. Quoi, tu vois,
mais moi j'ai peur qu'on continue à être sous les ordres d'une UE qui ne nous apporte rien, sans que personne dise, les gars, Hitler n'est plus là, on peut sortir de la cave.
Oui, c'est pas impossible, mais à ce moment-là, si tu veux, c'est un drame de la bêtise. Quoi. C'est un drame. Quand l'Union soviétique s'est écroulée... OK, il y a les types en Albanie qui ont dit que non, c'était pas fini. Mais par contre, en Pologne, en Hongrie, tout ça, on en a profité pour redevenir libre, quoi. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'on en profite pour virer tous ces gars-là, nous. Mais c'est là où il faut bien se rendre compte que cette hausse du prix de l'énergie et tout, ceux qui vont déguster le plus, c'est les gilets jaunes, les petits gens. Donc, à un moment ou à un autre, tu vas avoir les petits gens qui vont sortir les fourches, quoi. D'ailleurs, si vous connaissez des fabricants de fourches qui sont cotés, n'hésitez pas à les acheter, à mon avis, il va y avoir de la demande là.
Oui, c'est. J'allais faire une astuce sur le petit Sarkozy, mais c'était pas des papayes, c'était des mangues.
Des mangues.
Parce que tu sais quelles sont les. Avec quoi on mange une papaye? Avec une foufourche.
C'est ça.
Oui. Voilà.
Voilà. Eh ben merci beaucoup. Donc c'était vraiment, j'ai essayé de montrer au début comment j'ai appris tout ça, enfin comment j'ai commencé à apprendre. J'ai jamais fini d'apprendre. Deux, comment notre pays a rien compris depuis à peu près la même période. Et trois, comment il y a eu des hommes d'ombre dans le monde, donc cette espèce de système militaro-industriel contre lequel les Américains avaient été prévenus par Eisenhower. qui est en train d'essayer de faire quelque chose que je ne comprends pas très bien, tu vois. C'est, donc, comme je ne comprends pas très bien, ça risque de mal se passer du point de vue économique, parce que quand je les regarde, je dis qu'ils sont en train d'essayer de couler l'Europe pour pouvoir vendre leur pétrole. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, bon ben, si. Donc, les gens qui sont au pouvoir en France, en Angleterre, en Allemagne et partout, sont aujourd'hui des traîtres à la nation, on peut le dire, sans doute payés par les Américains. Aux urnes de citoyens, si j'ose dire.
Bon, voilà. Écoute, je suis contente d'avoir fait ce petit tour, et en tout cas, ces graphiques nous ont raconté pas mal de choses. Et on est un petit peu atterré de l'attitude de M. Trump. Et écoutez, on vous tient évidemment informé au fur et à mesure.
Mais les portefeuilles tels qu'on les a bâtis ont été faits pour qu'on n'ait pas besoin des États-Unis, si tu veux. C'était la grande différence, c'est que depuis un petit moment.
Ni de l'Europe, ni des États-Unis. J'ai à ce propos des gens qui posent souvent des questions sur la mise en place de l'euro numérique. Alors, encore une fois, l'euro numérique est une cochonnerie, on vous l'a dit, et beaucoup disent oui, mais il faut qu'on prenne des dispositions pour être contré vis-à-vis de cet euro numérique. Alors, encore une fois, je le répète, vous aurez remarqué qu'on n'est absolument pas en Europe, et il est difficile d'être plus contre l'euro numérique que le portefeuille actuel.
C'est-à-dire la boîte à chaussures dans laquelle vous avez quelques billets qui traînent, ce serait peut-être pas plus mal que ces billets soient en francs suisses.
Il y a deux choses dans la vie. Il y a placer un portefeuille de façon à ce qu'il vous donne un rendement de 8%, 9%, et il y a faire un trou et le mettre dans la terre, ou de la même façon acheter du bitcoin. Certains me disent, ah, il faut que j'achète du bitcoin. Et évidemment, d'une certaine façon,
des bitcoins de Napoléon, moi je préfère les Napoléons.
Voilà, il est certain que si on est au Liban ou au Venezuela en plein milieu d'une crise, il vaut mieux avoir bitcoin que rien. Il demeure que dans les temps présents, on pense, nous, que conserver un portefeuille qui vous donne du 8% reste rationnel. Si le temps de la guerre ultime arrive, on vous dira vite, vite, achetez Napoléon, ou vite, vite, placez-vous en bitcoin ou en ce que vous voulez, parce que c'est toujours mieux que rien. Mais on n'est pas encore en Allemagne en 36, donc
non,
voilà.
Non, ce qu'il y a, c'est que les gens me disent qu'il va y avoir une hyperinflation. Je ne crois pas. Il va y avoir simplement une disparition de la valeur des titres de dette que vous détenez. C'est-à-dire que ça ira pas à zéro parce que l'inflation va à 1000. Ça ira à zéro parce qu'on vous dira on ne vous rembourse pas.
Et j'ai eu une réflexion désagréable sur le site parce que je disais ce que je suis en train de dire. Et quelqu'un m'a dit « Oui, mais si on écoute les conseils de Charles Gaffe, c'est parce que justement, on veut qu'il nous dise sur l'euro numérique ce qu'il ferait lui. » Et bien, ce qu'il ferait lui, c'est exactement ce que... c'est-à-dire, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer, que par définition, ça n'est pas la même chose de gérer un portefeuille pour donner du 8% et...
Non, mais l'euro numérique, n'oubliez pas que c'est un contrat que vous passez avec l'État, là, d'utiliser sa monnaie. Et donc, si l'État décide aujourd'hui qui ne vous remboursera pas vos obligations, et votre euro numérique, il ne sera pas à vous non plus, et ça vaudra zéro, quoi.
Oui, c'est mais on ne peut pas en même temps vous dire quoi faire avec un euro numérique qui n'est pas, dont on n'a pas la loi, et dont je n'en ai pas Madame Irma. Je ne peux pas vous dire comment vous placer aujourd'hui intelligemment.
La seule chose que je sais, c'est qu'il vient d'être interdit aux États-Unis, parce que c'est en effet une façon pour l'État de tout contrôler. Et Madame
Von der Leyen,
Meloni, en Italie, a fait passer une loi constitutionnelle disant qu'on n'avait pas le droit d'interdire les billets en Italie.
Voilà.
Donc, ouvrez un compte à Milan. Voilà, pour ceux qui ont des euros numériques.
En attendant, pour l'instant, on ne peut pas vous dire exactement quoi faire en pratique ni fiscalement, puisque par définition, on n'a pas de loi. Donc on criera quand on aura mal, mais on ne va pas trop crier avant d'avoir une mal.
Non, mais
quand
l'idée
même
d'ouvrir un compte à Milan, ce n'est pas idiot, parce que s'il y a un compte à Milan où vous pourrez toujours sortir des billets à Milan sans que la Banque de France soit au courant.
Voilà, après, il faut voir quels sont... Je crois que c'est assez compliqué d'ouvrir des comptes quand t'es pas italien.
Oui, c'est pas impossible, ça.
Voilà, bon.
Trouver une grand-mère italienne. Ça doit exister dans une bonne famille française.
Merci beaucoup de nous avoir suivis en tous les cas. Posez vos questions en dessous si vous en avez. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.